Bonjour, voici encore une prédication au sujet de la pierre de Daniel. Je vous invite à écouter les autres avant d'écouter celle-là. Si vous n'avez pas entendu les autres prédications sur la pierre de Daniel, vous n'allez rien comprendre de ce que je suis en train de vous enseigner ce soir. Donc je vous invite à aller écouter d'abord les autres. Sinon, eh bien, soyez les bienvenus. Nous allons commencer notre enseignement parce que c'est un enseignement, par Hébreux chapitre 5, verset 4. Enfin, verset 1 déjà, si vous voulez. Tout grand prêtre parmi les hommes est établi en faveur des hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. C'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés aussi bien que pour ceux du peuple. Là, l'apôtre est en train d'expliquer ce que c'était que les prêtres dans l'Ancienne Alliance. Et il dit « Personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge à moins d'être appelé par Dieu comme l'a été à Aaron. » Et là, il parle de la prêtrise dans la Nouvelle Alliance aussi. Dans l'Ancienne Alliance, il fallait être appelé par Dieu comme l'avait été Aaron, mais dans la Nouvelle Alliance, il faut aussi être appelé par Dieu comme l'était Aaron. Nul ne vient au Père s'il n'est appelé par le Père, vous êtes d'accord? Et à partir du moment où quelqu'un est appelé par le Seigneur, eh bien, il peut recevoir la prêtrise, faire partie du peuple de sacrificateurs dont l'apôtre nous parle. Dans la Bible, second, on a enlevé le mot prêtre parce que ça rappelait trop la prêtrise catholique et on ne voulait pas qu'il y ait de confusion dans l'esprit des gens, donc ils ont enlevé le mot prêtre, ils ont mis sacrificateur à la place. Mais c'est bel et bien le mot prêtre. Donc, si vous êtes un chrétien né de nouveau, rempli de l'esprit, un disciple accompli, vous êtes prêtre selon cet ordre de Aaron. Et on va voir de quoi il s'agit ce soir en profondeur. Il y a une différence, mes frères et sœurs, entre être disposé à faire quelque chose et être capable de le faire. On va prier. Seigneur Jésus, je te prie de tout mon cœur, vraiment que chacun se donne vraiment, se consacre pour bien comprendre et une bonne attitude pour bien comprendre ce que je vais dire ce soir. Merci Jésus. Amen. Voyez, beaucoup de gens sont disposés à servir Dieu de tout leur cœur d'une façon sincère, mais ils ne sont pas forcément capables de le faire. C'est pour cette raison que toute personne est d'abord mise à l'épreuve avant de pouvoir entrer dans le ministère. Aaron a été appelé par Dieu au travers du serviteur de Dieu qui était Moïse. Il ne s'est pas mis tout d'un coup là comme ça en avant, non, non, pas du tout. Et il y a de l'ordre dans l'Église parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et il faut que les choses se fassent selon l'ordre que Dieu donne et non pas selon les idées qui sont dans le monde religieux. Alors, celui qui est ainsi appelé, qui est appelé par Dieu au travers du ministère de quelqu'un qui lui est spirituellement supérieur, parce qu'il faut arrêter avec cette histoire de « il n'y a pas d'hierarchie, on est tous frères, l'air ». Arrêtez, je vous en supplie. Bien sûr qu'on est tous frères, mais on n'est pas tous apôtres, on n'est pas tous prophètes, on n'est pas tous docteurs, on n'a pas tous le don de guérison. L'apôtre dit « il y a premièrement ceci, ensuite il y a cela et cela ». Donc ça veut bien dire qu'il y a une hiérarchie. Il faut arrêter avec ces enfantillages de bas étage. Celui qui est appelé ainsi est ordonné par Dieu au travers de l'imposition des mains d'un détenteur d'une prêtrise supérieure. Il y a donc une prêtrise supérieure à celle d'Aaron. Et puis il est envoyé pour être serviteur de tous. Il possède toute chose, parce que toute chose lui sont soumises, tant dans le ciel que sur la terre, la vie et la lumière, l'esprit, le pouvoir, hein, la Bible nous dit, toutes ces choses sont à vous. qui est enfant de Dieu, et il est envoyé par la volonté du Père, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, qui est Dieu dans sa création, et par l'intermédiaire de l'Église de Jésus-Christ, qui est l'œuvre bien ordonnée de Jésus-Christ. Donc il y a un ordre, c'est pas n'importe comment. Mais nul ne possède toute chose s'il n'est pas purifié et lavé de tout péché. Je vous rappelle que le mot péché signifie erreur. Par exemple, il se peut très bien que vous ne soyez pas coupable de péché, de meurtre, ou de vol, ou de viol, ou de je ne sais pas de quelle impureté. Mais si vous n'êtes pas en ordre, selon l'ordre établi, vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans le péché. Vous comprenez ? C'est nécessaire de le dire, il faut le dire. Parce qu'il ne suffit pas de dire « Oh, l'Église de Jésus-Christ, ceci et cela ». Non. Pourquoi l'Église est-elle dans l'état où elle est aujourd'hui ? Parce qu'il n'y a pas d'ordre dans l'Église. Ou alors un ordre humain, mais pas un ordre divin. Si vous êtes purifié et lavé de tout péché, c'est-à-dire de toute erreur, que vous êtes bien mis en ordre, vous demandez ce que vous voudrez au nom du Seigneur Jésus-Christ, et cela se fera. Mais sachez-le, ce que vous devez demander vous sera montré, vous sera inspiré. Il n'y a que les prières inspirées qui sont exaucées. Vous voyez, ça ne sert à rien d'aller chasser des démons et lever des malédictions, alors que des fois c'est Dieu qui a mis ça. C'est Dieu des fois qui a mis des malédictions sur les familles. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, aller lier, chasser, délier, tout ce que vous voulez. Il faut que Dieu vous montre, sinon vous risquez de lutter contre Dieu. Et après, on s'étonne qu'il y a des problèmes. Faire attention, on ne fait pas n'importe quoi. Si vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, vous n'êtes pas des bricoleurs, mais vous êtes des serviteurs de Dieu et serviteurs des autres. Vous voyez, la pierre que Daniel a vue et qui est venue frapper la statue dans la vision, cette statue, elle s'effondre, et c'est tous les gouvernements de ce monde qui sont en train de s'effondrer maintenant. Maintenant, selon la prophétie de Daniel, cette pierre devient une montagne et elle commence à remplir la terre. Et je vous ai enseigné ces choses dans les 7 prédications précédentes concernant la pierre de Daniel. Cette pierre, c'est d'abord un enseignement qui vient par révélation, la vérité que Jésus rétablit pour avoir sur la terre son Église rétablie. C'est son Église, son peuple de sacrificateurs qui va finalement remplir la terre et gouverner la terre. Dedans, il y aura les Juifs, ah oui, et puis la véritable Église de Jésus-Christ. Or, son Église n'est pas établie dans le désordre. Elle n'est pas rétablie dans le désordre. C'est Jésus qui bâtit son Église, ce n'est pas des hommes. On connaît des gens là qui ont dit, voilà, toi tu seras prophétesse, toi tu es ainsi dit le Seigneur et tout, puis on voit qu'il n'y a rien du tout, c'est du pipeau, c'est tout pour séduire, n'est-ce pas ? Or, il nous a fait comprendre, le Seigneur nous a fait comprendre en 1977 de ne nous joindre à aucune église existante. C'était un choc pour moi, mais nous avons obéi et il nous a montré que son église, c'est une communauté de vie. C'est des gens qui renoncent à leurs biens, qui mettent en commun, qui vivent ensemble. Luc 14, 33, je crois qu'il dit que personne ne peut être disciple à moins de renoncer à ses biens. Et dans Actes 2, 38, 46, dans Actes 4, 32, 35, tout ça est bien écrit. Voilà comment était l'Église au début, voilà comment elle doit être à la fin. Elle doit être rétablie comme ça, elle doit être comme ça. C'est rien d'autre. L'Église, c'est rien d'autre. Aucune chose qui s'appelle Église et qui n'est pas comme ça n'est une Église véritablement. Ce n'est pas des Églises, c'est des clubs chrétiens. Voilà, c'est bien, mais ce n'est pas l'Église. L'Église, elle a disparu. Elle a besoin d'être rétablie. Au cours des années, le Seigneur, nous voyant fidèles, nous a révélé beaucoup d'autres choses, nous a mis à l'épreuve pour voir si on allait tenir le coup. Et nous nous sommes bien appliqués à vivre ces choses. On n'a pas été parfaits, mais on a eu aussi à se repentir souvent. Mais nous ne serons pas jugés pour ce que nous savons. Nous serons jugés pour ce que nous aurons vécu. Et puis ensuite, il nous a confirmé que nous ne devions pas nous joindre aux églises existantes par le témoignage de son prophète William Branham, qui lui-même a été annoncé par prophétie des dizaines d'années avant sa naissance par les Mormons, et même son nom a été donné, et l'époque à laquelle il viendrait. Et je vous rappelle toutes ces choses parce qu'elles sont saintes. Ce n'est pas des prophéties à deux balles. Ce sont des choses qui ont été dites et qui se sont accomplies. Tout ça, c'est enregistré dans les prédications dans la série des Pierres de Daniel. Vous pouvez écouter tout ça, c'est sûr. Toutes ces choses sont enregistrées là, sur Révélation Bible, dans la série la Pierre de Daniel. Maintenant, nous savons qu'Élie est venu. Nous savons que Élie, c'est pas William Branham. Nous l'avons appris, nous le savons maintenant. Nous savons qu'il est venu lui-même. Élie est venu lui-même. Le 8 avril 1836, il est apparu à Joseph Smith et Olivier Cordery. Ça vous plaît pas? C'est pas grave. C'est comme ça, puis c'est pas autrement. C'est vrai que ça peut vous choquer, mais c'est comme ça. Et il est venu pour accomplir la prophétie de Malachie 23. Tout ça, c'est dans mes enseignements, les sept premières prédications sur la pierre de Daniel. Bon, maintenant, évidemment, le diable est en colère, il n'est pas content, alors il cherche à détruire, ou alors il imite, afin de tromper, et évidemment, il s'attaque toujours au fondateur, c'est normal. Bon, alors voilà, c'est moi qui ai été le plus touché, mais c'est normal, c'est comme ça. Et je vais maintenant vous faire une lecture dans le livre de Mormon, dans la partie du livre de Mormon qui s'appelle « Doctrine et Alliance », au chapitre 50. Si vous ne savez pas pourquoi je vous lis quelque chose dans le livre de Mormon, c'est parce que vous n'avez pas écouté les prédications précédentes, c'est bien dommage pour vous, mais je ne vais pas tout vous réexpliquer maintenant. Il faut aller écouter les autres prédications et vous saurez pourquoi je vous lis quelque chose dans le livre de Mormon. Donc, dans le Doctrine et Alliance, à la section 50, je lis « Écoutez, ô anciens de mon Église, et prêtez l'oreille à la voix du Dieu vivant. Faites attention aux paroles de sagesse qui vous seront données selon ce que vous vous êtes accordé à demander concernant l'Église et les esprits qui se sont répandus sur la terre. Voici en vérité, je vous dis qu'il y a beaucoup d'esprits qui sont de faux esprits qui se sont répandus sur la terre, trompant le monde. Et Satan a également essayé de vous tromper afin de vous détruire. Voici, moi le Seigneur, je vous ai observé et j'ai vu les abominations dans l'Église qui professent mon nom. Mais bénis sont ceux qui sont fidèles et persévérants, que ce soit dans la vie ou dans la mort, car ils hériteront la vie éternelle. Mais malheur aux séducteurs et aux hypocrites, car ainsi dit le Seigneur, je les amènerai en jugement. Voici en vérité, je vous le dis, il y a parmi vous des hypocrites, et certains ont été trompés par eux, ce qui a donné du pouvoir à l'adversaire. Mais ceux-là seront ramenés. Qui sont ceux-là qui seront ramenés? C'est ceux qui ont été trompés, c'est pas les hypocrites. C'est ceux qui ont été trompés, qui seront ramenés. D'ailleurs, on le voit, il commence à revenir là, tout doucement. Mais les hypocrites seront démasqués et retranchés, soit dans la vie, soit dans la mort, comme je le veux. Et malheur à ceux qui sont retranchés de mon Église, car ceux-là sont vaincus par le monde. C'est pourquoi que chacun prenne garde de peur qu'il ne fasse ce qui n'est pas dans la vérité et la justice devant moi. Et maintenant, venez, dit le Seigneur par l'Esprit, aux anciens de son Église, et raisonnons ensemble afin que vous compreniez. Raisonnons comme un homme raisonne avec un autre, face à face. Or, lorsqu'un homme raisonne, il est compris de l'homme, parce qu'il raisonne comme un homme. De même, moi le Seigneur, je vais raisonner avec vous, afin que vous compreniez. Donc il va pas falloir dire « je n'ai pas compris », « ça ne m'a pas été révélé ». Maintenant, Dieu vous parle de façon à être compris. Moi le Seigneur, je vous pose donc cette question. À quoi avez-vous été ordonné? Et la réponse est « à prêcher mon évangile par l'Esprit, oui, par le Consolateur qui a été envoyé pour enseigner la vérité. Ensuite, vous avez reçu des esprits que vous ne pouviez pas comprendre, et vous les avez reçus comme venant de Dieu. Êtes-vous justifié en cela? Voici, vous répondrez vous-même à cette question. Néanmoins, je serai miséricordieux envers vous. Celui d'entre vous qui est faible sera à l'avenir rendu fort. En vérité, je vous le dis, celui qui est ordonné par moi et envoyé prêcher la parole de vérité par le Consolateur, selon l'Esprit de vérité, prêche-t-il par l'Esprit de vérité ou d'une autre façon? Si c'est d'une autre façon, ce n'est pas de Dieu. Vous voyez, quelqu'un peut être ordonné par Dieu et envoyé pour prêcher la parole de vérité par le Consolateur, mais est-ce qu'il prêche par l'Esprit de vérité ou d'une autre façon? Il peut prêcher d'une autre façon. Et là, c'est plus de Dieu. Et de plus, celui qui reçoit la parole de vérité, la reçoit-il par l'Esprit de vérité ou d'une autre façon? Toi qui écoutes les prédicateurs, toi qui écoutes les faux prophètes, toi qui écoutes tout le monde, qui mange à tous les râteliers, tu reçois par quel esprit? Quel est l'esprit qui t'anime? Si c'est d'une autre façon, si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu que tu écoutes, que tu reçois, ça ne vient pas de Dieu. Verset 20. Si c'est d'une autre façon, ce n'est pas de Dieu. Comment se fait-il donc que vous ne puissiez comprendre et savoir que celui qui reçoit la parole par l'Esprit de vérité la reçoit telle qu'elle est prêchée par l'Esprit de vérité? C'est pourquoi celui qui prêche et celui qui reçoit se comprennent et tous les deux sont édifiés et se réjouissent ensemble. Et ce qui n'édifie pas n'est pas de Dieu, mais c'est ténèbres. Ça n'édifie pas, ça détruit, ça divise, ça casse tout. Ce qui est de Dieu est lumière. Et celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière et cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. Et de plus, en vérité, je vous dis, et je le dis pour que vous connaissiez la vérité, que vous pouvez chasser les ténèbres de parmi vous. Celui qui est ordonné par Dieu et envoyé est désigné pour être le plus grand, même s'il est le plus petit et le serviteur de tous. C'est pourquoi il possède toutes choses, car toutes choses lui sont soumises, tant dans le ciel que sur la terre, la vie et la lumière, l'esprit et le pouvoir, envoyé par la volonté du Père, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, son Fils. Mais nul ne possède toute chose s'il n'est purifié et lavé de tout péché. Ce que je vous disais tout à l'heure. Et si vous êtes purifié et lavé de tout péché, de toute erreur, vous demanderez ce que vous voudrez au nom de Jésus-Christ et cela se fera. Mais sachez-le, ce que vous devrez demander vous sera montré et vous êtes nommé à la tête des esprits, ils vous seront soumis. C'est pourquoi il arrivera que si vous voyez se manifester un esprit que vous ne pouvez pas comprendre et que vous ne recevez pas cet esprit, vous interrogez le Père au nom de Jésus et s'il ne vous donne pas cet esprit, alors vous saurez qu'il n'est pas de Dieu. Et du pouvoir vous sera donné sur cet esprit et vous proclamerez à haute voix que cet esprit n'est pas de Dieu. Non pas en portant contre lui un jugement injurieux afin de ne pas être vaincu, ni en vous vantant, ni en vous réjouissant de peur d'être saisi par lui. Attention, le domaine du monde de l'esprit n'est pas un domaine où on plaisante. Celui qui reçoit de Dieu, qu'il considère que c'est de Dieu et qu'il se réjouisse de ce que Dieu le considère comme digne de recevoir. En prêtant attention et en faisant ces choses que vous avez reçues et que vous recevrez plus tard, et le royaume vous est donné par le Père ainsi que le pouvoir de vaincre toutes les choses qu'il n'a pas établies, voici en vérité, je vous le dis, vous êtes bénis, vous qui entendez maintenant de la bouche de mon serviteur ces paroles qui sont les miennes, car vos péchés vous sont pardonnés. Et alors là, il commence à s'adresser à plusieurs personnes de son église, et il continue à prophétiser, disant que mon serviteur Joseph Wakefield, en qui je me complais, mon serviteur parlait, Pratt, s'en aille parmi les branches de l'église et les fortifie par l'exhortation, ainsi que mon serviteur John Coryl et tous ceux de mes serviteurs qui sont ordonnés à cet office et qui travaillent dans la vigne, et que nul ne les empêche de faire ce que j'ai décrété pour eux. C'est pourquoi mon serviteur Edward Patridge n'est pas justifié en cela. Néanmoins, qu'il se repente et il sera pardonné. Vous voyez, c'était nominatif, hein? Nominatif. Ah, j'aime pas, t'as dit mon nom. Ah, attention. Quand Dieu parle, Dieu parle. Voici, vous êtes de petits enfants, vous ne pouvez pas tout supporter maintenant. Vous devez progresser en grâce et dans la connaissance de la vérité. Ne craignez pas, petits enfants, car vous êtes à moi et j'ai vaincu le monde. Et vous êtes de ceux que le Père m'a donné. Et aucun de ceux que mon Père m'a donné ne sera perdu. Et le Père et moi sommes un. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et puisque vous m'avez reçu, vous êtes en moi et moi en vous. C'est pourquoi je suis au milieu de vous. Je suis le bon berger et la pierre d'Israël. Celui qui bâtit sur ce rocher ne tombera jamais. Voyez-vous, vous devez bâtir, mais avec quoi? Quel matériau? Du foin, du chaume, du bois? Avec quoi vous bâtissez? Et le jour vient où vous entendrez ma voix, me verrez et saurez que je suis. C'est pourquoi veillez afin d'être prêt. J'ai dit. Amen. Afin que vous sachiez ce qui est vrai, et que vous puissiez rejeter l'erreur. Et l'erreur conduit à la perdition. Donc, vous avez bien compris, dans l'Église, comme nous l'avait enseigné William Branham, il y a deux sortes d'esprits qui agissent. Satan essaye de nous tromper, de nous impressionner. Il arrive en disant certaines vérités, et on est plus ou moins tenté de le croire. Puis vous connaissez la suite de notre histoire. Bon, voilà. Enfin, voilà. Maintenant que ce tri a été fait, nous sommes à même d'établir l'ordre dans la communauté, tel que Jésus le veut, et non pas tel que l'esprit contraire voulait que nous le fassions. Premièrement, nous sommes tous appelés à prêcher l'Évangile par le Saint-Esprit, hein? La question c'est, à quoi avez-vous été, vous avez été ordonné à quoi? Nous sommes tous appelés à prêcher l'Évangile par le Saint-Esprit. Cela c'est la prêtrise d'Aaron. Comme je vous disais, la version seconde a barré le mot prêtrise, parce que ça avait des connotations trop catholiques, et ils ont mis sacrificateur à la place. Alors, ne soyez pas choqués par le mot prêtrise, ça n'a rien de catholique. Nous sommes un peuple de prêtres, de sacrificateurs, hein, si vous voulez. Apocalypse 1, 6, Apocalypse 5, 10. Alors, qu'est-ce qu'un disciple accompli, qu'est-ce qu'un prêtre doit faire? Eh bien, on va lire ça dans Doctrine Alliance, dans la section 20 et 46, 52. Le devoir du prêtre est de prêcher, enseigner, expliquer, exhorter, baptiser et bénir la Sainte Cène, de rendre visite à chaque membre, de l'exhorter à prier à haute voix et en secret, et à remplir tous ses devoirs de famille. Il peut aussi ordonner d'autres prêtres, instructeurs et diacres. Il doit prendre la direction des réunions lorsqu'il n'y a pas d'anciens présents. Mais, lorsqu'un ancien est présent, il ne doit que prêcher, enseigner, expliquer, exhorter, baptiser et rendre visite à chaque membre, l'exhortant à prier à haute voix et en secret et à remplir tous ses devoirs de famille. Voilà, ça c'est ce que un chrétien a le droit de faire. On me demande, est-ce que j'ai le droit de baptiser? Oui, tu as le droit de baptiser, mon frère, ma sœur, tu as le droit de baptiser, mais s'il y a une église, eh bien, tu dois te soumettre aux anciens, c'est-à-dire tu t'effaces, c'est pas toi qui le fais, ou alors tu le fais parce que les anciens de l'Église t'autorisent à le faire. Mais s'il n'y a pas d'anciens, si tu es au milieu de la brousse, loin de tout, et puis qu'il y a des gens qui sont là, qui viennent à Jésus, tu peux les baptiser. Mais s'il y a un ancien, tu ne peux pas. Et puis tu ne peux pas ordonner quelqu'un. S'il y a un ancien qui est là, tu ne peux pas le faire. Enfin, vous avez entendu ce que je vous ai lu, vous êtes assez intelligent pour comprendre quand même, je ne vais pas vous répéter deux fois la même chose. Nous sommes un peuple de sacrificateurs, alors nous avons des choses à faire. Et si un ancien est là, le détenteur de la prêtrise d'Aaron n'a pas le droit d'ordonner d'autres prêtres, instructeurs et diacres. voilà ce que vous avez à faire et voilà comment vous devez le faire, dans quel ordre vous devez le faire, pas n'importe comment. Vous ne pouvez pas agir en franc-tireur. Mais comme je vous l'ai toujours enseigné depuis le début, vous prenez, mais il y a presque 700 prédications, je crois, sur Internet. Allez écouter, vous allez voir, depuis toujours, je vous ai enseigné selon l'ordre biblique, c'est-à-dire, vous devez faire les choses en unité avec le corps de Christ qui est l'Église locale. Vous ne devez pas agir en franc-tireur. Vous ne pouvez pas faire ces choses si un ancien est présent. Si un ancien est présent, c'est lui qui vous autorise à faire les choses ou pas. Il m'est arrivé souvent de demander à quelqu'un de baptiser d'autres personnes. Je ne l'ai pas fait moi-même. Je dis voilà, Philippe, tu peux baptiser ta fille, ou voilà, Alain, tu peux baptiser ta fille. Bon. Vous comprenez? Maintenant, qui est un ancien? Alors vous avez le verset qui dit qu'il faut qu'il soit marié d'une seule femme, que ses enfants soient des croyants, qu'ils s'en comportent bien, tout. Alors, c'est une personne dont la Bible parle de diverses manières. Je ne vais pas vous faire un cours sur ce que c'est qu'un ancien. Vous prenez votre concordance biblique, vous allez chercher le mot ancien, vous allez voir tous les versets, vous allez voir ce que c'est qu'un véritable ancien. Et je ne vais pas vous parler des anciens dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau. Les anciens sont mentionnés comme des officiers de la prêtrise. Vous trouvez ça dans Jacques, chapitre 5, verset 14-15. Je vous le lis. Il dit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en lui appliquant l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon sera accordé. » Vous voyez, encore là, s'il y a des anciens, on ne va pas appeler à quelqu'un qui a simplement la prêtrise d'Aaron. On appelle d'abord les anciens. Par exemple, dans l'Église primitive, alors qu'ils étaient tous des jeunes convertis, eh bien, c'était par les mains des apôtres uniquement que les miracles se faisaient, puis tous les autres se tenaient à l'écart avec crainte. Hein? Puis après, les apôtres les ont enseignés, et puis ont imposé les mains, et puis ils ont pu eux-mêmes aussi faire ce que Jésus avait dit. Tous ceux qui croient peuvent faire cela, imposer des mains aux malades, etc., etc. Mais dans l'ordre établi, s'il y a un apôtre, un prophète, un docteur, un pasteur, un évangéliste, enfin quelqu'un qui a la prêtrise supérieure à celle d'Aaron, eh bien, celui qui n'a que la prêtrise d'Aaron, il se tient humble et soumis. Et ce n'est pas une mauvaise chose, à moins que vous soyez orgueilleux. Mais c'est plus que cela, c'est plus que ce que je viens de vous lire. Pierre était un ancien. Vous lisez ça dans 1 Pierre, chapitre, je crois que c'est ça, chapitre 5. 1 Pierre 5 dit au verset 1. Voici les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Donc tout le monde n'était pas ancien. Hein? Il y avait même des vieux qui n'étaient pas anciens. Ça ne veut pas dire vieux, anciens. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement. Non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Donc, un ancien, c'est quelqu'un qui a la responsabilité de garder le troupeau, l'Église. Ce n'est pas le rôle du chrétien ayant la prêtrise d'Aaron. Tous les sacrificateurs, selon l'ordre d'Aaron, ne sont pas appelés à garder le troupeau et à veiller sur lui. Ce n'est pas sa tâche, ce n'est pas votre tâche, c'est une autre prêtrise, c'est celle de Melchisédek. On va lire dans Doctrine Alliance 20, 38 à 45, 20, 38 à 45, devoir des anciens. prêtre instructeur, diacre et membre de l'Église du Christ. C'est-à-dire, il va faire toute la liste de les responsabilités de tous. Et là, il dit, un apôtre est un ancien. Et son appel est de baptiser. Mais vous me direz, mais celui qui a la prêtrise d'Aaron aussi. Mais bien sûr. Mais celui qui a la prêtrise d'Aaron, il ne va pas baptiser s'il y a un apôtre qui est là, à moins que l'apôtre lui demande de le faire. Celui qui est apôtre, il a l'autorité pour, son appel est d'ordonner d'autres anciens, prêtres, instructeurs et diacres, de bénir le pain et le vin, les emblèmes de la chair et du sang du Christ, de confirmer ceux qui sont baptisés dans l'Église par l'imposition des mains pour le baptême de feu et du Saint-Esprit, selon les Écritures, et d'enseigner, expliquer, exhorter, baptiser et veiller sur l'Église, de confirmer les membres de l'Église en imposant les mains et en donnant le Saint-Esprit. C'est Jésus qui donne le Saint-Esprit au travers de ceux qui ont ce ministère. Et de prendre la direction de toutes les réunions. Voilà. Ce n'est pas à celui qui a la prêtrise d'Aaron de se lever et de prendre la direction des réunions. Les anciens doivent diriger les réunions selon qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit conformément aux commandements et aux révélations de Dieu. Le devoir du prêtre est de prêcher, d'enseigner, d'expliquer, d'exhorter, de baptiser, de bénir la Sainte Cène, de rendre visite à chaque membre, etc. etc., etc. Maintenant, toujours dans Doctrine et Alliance 42, verset 44. Et les anciens de l'Église, deux ou plus, seront appelés, prieront pour eux, poseront les mains sur eux en mon nom, etc. Au sujet de ceux qui sont, pour ceux qui sont malades, ils appellent les anciens. Verset, alors toujours dans Doctrine et Alliance, section 46, verset 2. Là, il est dit, mais en dépit de ces choses qui ont été écrites, il a toujours été donné aux anciens de mon Église depuis le commencement, et ce sera toujours de diriger toutes les réunions selon les inspirations et directions du Saint-Esprit. Donc c'est les anciens qui dirigent. Si un ancien vous confie la réunion et vous demande de le faire, vous pouvez le faire. Mais si un ancien ne vous dit pas de le faire, vous ne le faites pas. Et vous ne prenez pas l'autorité, vous n'avez pas cette autorité, vous n'avez pas ce droit. Vous allez me dire, oui, mais alors c'est quoi? C'est du nicolaïsme? Non. C'est l'ordre établi par Dieu. Le nicolaïsme, c'est l'ordre établi par l'homme. On voit ce que ça donne dans les églises. Si vous ne connaissez pas, allez voir ce qui se passe dans les églises et vous me direz, vous me raconterez. Hein? Moi, je connais, je sais, j'ai vu, j'ai donné, ça va, merci. Maintenant, 107, donc une alliance 107, 12, où il est dit. Le grand prêtre et l'ancien doivent administrer les choses spirituelles conformément aux alliances et aux commandements de l'Église. Ils ont le droit d'officier dans tous ces offices de l'Église lorsqu'il n'y a pas d'autorité supérieure présente. Il peut y avoir une autorité supérieure présente. Quelqu'un qui est encore au-dessus de ça. Et on verra, on va y venir petit à petit. Je vais vous expliquer toutes ces choses qui sont en ordre maintenant, qui ne l'étaient pas encore, mais qu'ils le deviennent. Nous verrons un de ces jours ces choses par rapport à ce que c'est qu'un grand prêtre et par rapport à un ancien. Mais ce qu'il nous faut retenir de tout cela aujourd'hui, c'est que chacun doit être à sa place et que personne n'a le droit ni l'autorité de prendre la place d'un ministre supérieur. Puis arrêtez de me dire qu'il n'y a pas de ministre supérieur. Écoutez, j'étais très ami avec... Théodore Osborne, c'était comme mon papa. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui était près de moi et j'étais aussi près de son cœur. Il y avait vraiment une affection fraternelle. Mais jamais, au grand jamais, j'aurais osé aller vers lui en lui parlant, en lui disant « Frère, je vous conseille de vous mettre devant Dieu et de demander au Saint-Esprit. » Jamais! Vous comprenez, il y a, c'est drôle, dans le monde, les gens sont plus avisés. Ils savent, voilà, par exemple, je suis devant un ministre ou un président ou même président d'une simple société. Ben voilà, on ne va pas lui parler comme aux copains d'atelier, quoi. C'est pas, mais il n'y a que dans l'église, dans la fausse église, où les gens se permettent de dire n'importe quoi, comme ça, comme un pote, comme un copain, voilà. Non, il faut respecter les autorités placées par Dieu. Il faut les respecter, sinon vous avez des problèmes. Je vous dis ça parce que c'est vous qui allez avoir des problèmes. C'est pas que si j'avais dit un truc, si je m'étais permis de reprendre Osborne au sujet de quelque chose, lui, ça l'aurait fait. Voilà, ça peut-être j'aurais eu raison, peut-être même, hein. Mais, mais c'est moi qui aurais eu un problème parce que je n'ai pas à le faire. Ou alors en mettant des gants, en étant très prudent. Même les autorités déchues, on n'a pas le droit de leur parler de n'importe quelle manière. Alors parler à un serviteur de Dieu, comme par exemple T.L. Osborne, qui est approuvé par Dieu, vous ne pouvez pas. On n'a pas le droit. Il faut respecter les choses. L'ordre établi dans l'Église, il faut le respecter. Si vous ne respectez pas, c'est vous qui avez un problème. C'est vous. Je vous dis ces choses par amour pour vous. Hein. Même un pasteur, votre pasteur dans votre église, peut-être qu'il a fait une boulette. Priez pour lui, parlez-lui gentiment, mais n'allez pas fanfaronner devant lui. Non, faites attention. Faites attention. Hein, rappelez-vous, il ne faut pas. Ce n'est pas bien, hein, ce n'est pas dans l'ordre établi. Alors, il y a la prêtrise d'Aaron et il y a la prêtrise de Melchisédek, qui est celle des anciens. Alors, je vous avais dit que la prêtrise de Melchisédek, elle n'est pas transmissible, ça c'est ce que la Bible dit, et c'est évident, mais c'est vrai que le serviteur de Dieu en qui Jésus vit, il manifeste les choses que Jésus-Christ manifestait dans l'Église avec autorité. Et pas forcément celui qui a la prêtrise d'Aaron. Il a une partie. On ne reçoit pas tous pareil. Ne venez pas me dire que tous les évangélistes, par exemple, ont reçu la même chose. Ce n'est pas vrai. Eh bien, un apôtre n'a pas reçu la même chose qu'un docteur. Ce n'est pas vrai. L'efficacité n'est pas la même. Il faut reconnaître ces choses, il faut arrêter de faire les gamins mal élevés qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas et il y aura beaucoup moins de problèmes s'il y a ne serait-ce que ce respect. Je ne parle même pas d'amour, là, je parle de respect parce que l'amour, excusez-moi, mais, mon Dieu. Donc il y a la prêtrise de Melchisédek qui est celle donc des anciens où si vous voulez parler le langage plus compréhensible dans notre siècle, c'est les ministères de la parole, c'est les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, les prophètes, voilà. Je ne dis pas ceux qui ont le don de prophétie, je parle de ceux qui sont prophètes. Le ministère de prophète, c'est autre chose que celui qui possède un don de prophétie. Mais là encore, quel désordre! Quel désordre! Et au-dessus de cela se trouve le grand prêtre qui a autorité sur les anciens. On verra ça un autre jour. Aller contre cet ordre établi, c'est péché. C'est abomination. Dieu dit, j'ai regardé et j'ai vu l'abomination. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui vont contre cet ordre établi. Contre cet ordre établi. C'est aller contre ce qui est sacré, contre ce que Jésus construit, contre ce que Jésus établit, contre ce que Jésus rétablit. C'est lui qui bâtit son Église. C'est aller contre l'ordre dans l'Église de Jésus-Christ. Quand on a ouvert la communauté en 1977, on ne savait rien de toutes ces choses-là. Simplement, on a agi par amour pour Dieu, parce qu'on s'est dit, non, ça ne va pas. On ne peut pas continuer comme ça, comme ils font dans ces églises. Mais Seigneur, il faut faire quoi ? Pour être plus près des gens, pour les aimer davantage, pour être... Et on était conduits par le Saint-Esprit parce qu'on avait l'amour des gens et l'amour de la parole de Dieu. Mais on ne savait rien. On était conduits comme ça et comme on était une petite communauté, je vous rappelle que quand on arrivait ici au château, on était 11, et ben ça aurait été ridicule de nommer toute cette hiérarchie. Mais ça aurait été profondément ridicule. D'ailleurs, le Saint-Esprit ne nous a pas conduits à cela, à ce moment-là. Il y avait simplement de l'amour, du respect, voilà. Mais voyant le manque, alors l'ennemi a essayé, n'est-ce pas, de mettre le trouble. Mais bon, ça c'est toute une autre histoire, on va pas revenir là-dessus. Les pièges du diable sont redoutables parce que, et tous les religieux tombent dedans. Tous les religieux tombent dedans. On a lu ça, je ne sais pas si vous avez fait attention, dans Doctrine Alliance 50, il dit, au verset 17, en vérité, je vous le dis, celui qui est ordonné par moi et envoyé pour prêcher la parole de vérité par le Consolateur, selon l'Esprit de vérité, prêche-t-il par l'Esprit de vérité ou d'une autre façon? Celui qui reçoit la parole de vérité, la reçoit-il par l'Esprit de vérité ou d'une autre façon? Vous voyez? Il y a toujours les deux possibilités. Et beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont été réellement appelés par Dieu, eh bien, au bout d'un moment, ils ont dévié. Ça n'était plus l'Esprit de Dieu, mais ils ont fait les choses par eux-mêmes et ils ont été... c'était lamentable. Vous voyez, c'est ce qui a créé tout ce désordre. Les religieux peuvent recevoir des paroles de vérité, mais inspirées par un autre esprit que le Saint-Esprit. C'est quand même fort. Et voilà pourquoi il y a de tels désaccords entre les églises, entre les serviteurs de Dieu, sur les mêmes textes. Ils sont envoyés pour prêcher la parole de Dieu, mais c'est des esprits différents qui les inspirent. Alors, ils se contredisent en se basant sur les mêmes choses, sur les mêmes textes. Or, ce qui vient de Dieu, ça édifie, ça construit. Alors, la communauté fidèle, elle est toujours fidèle. Et elle construit. Les enseignements édifient, bénissent, guérissent, sauvent, rassurent, consolent. Non, je ne vous dirai pas de l'autre côté ce qui se passe. C'est très embêtant. Mais c'est la triste réalité. On ne peut pas se voiler les yeux. Pour le moment, ce qui nous est demandé, c'est de veiller et de prier, de nous instruire des choses saintes que Dieu rétablit dans son Église. Car c'est cela l'huile qu'il nous faut pour pouvoir partir à sa rencontre. C'est la parole pour notre jour. Toutes ces choses ne sont pas nouvelles, elles sont seulement à rétablir dans la vraie Église de Jésus-Christ. Il faut comprendre. J'espère que vous comprenez ce que le Saint-Esprit est en train de dire et de faire. D'abord, il révèle une partie de la vérité. Et puis, il met les gens à l'épreuve. Et puis, s'il nous voit fidèles, il nous en confie plus. Et puis, il envoie un ministère d'anges. Là, en général, c'est là que les vieilles outres, elles ne peuvent plus contenir le vin nouveau et qu'elles craquent. En général, c'est là, parce que ministère d'anges, les chrétiens sont plus aptes à croire aux démons qu'aux anges. Et alors là, ça fait des dégâts, ça ressemble à une division. Ça ressemble à une division, mais ça n'est pas une division. C'est la sanctification, c'est la mise à part. Vous savez, quand vous priez, mon Dieu, délivre-nous du mal, ben, il vous délivre du mal, par une espèce de division. Ça s'appelle la sanctification. Il vous délivre du mal. Et alors après, Dieu forme le petit reste qui est fidèle. Et il les forme. La formation, elle comprend des avertissements. Elle comprend des instructions. Et puis, il y a la prêtrise qui est annoncée. D'abord, elle était annoncée. Ça fait longtemps que je voulais annoncer. Et puis, elle est conférée. Et alors, nous pouvons avoir maintenant la certitude que nous sommes membres de son Église, et non pas membres d'un groupe qui porte le nom d'un homme ou qui est le résultat d'une lubie. Cette certitude nous vient par le Saint-Esprit, elle est confirmée par l'Évangile éternel qui nous a été confié. Les deux morceaux de bois d'Ézéchiel 37:15 ayant été mis ensemble. Vous savez pas ce que c'est, les deux morceaux de bois d'Ézéchiel 37? Allez écouter les prédications des autres vendredis. Je vous ai dit, il y a des prédications qui ont été faites, des enseignements qui ont été donnés. Si vous ne savez pas ce que c'est les deux morceaux de bois qui ont été rapprochés, qui ont été mis ensemble, c'est nécessaire que vous le sachiez. Les révélations, elles continuent. Dans le bois de Joseph, vous ne savez pas ce que c'est? Allez voir dans la Bible, allez écouter mes prédications, mes enseignements. Les révélations contenues dans le bois de Joseph et nous confirment que nous vivions bien ce qui était écrit dans le bois de Judas, c'est-à-dire dans la Bible. Même si ce n'était pas clairement dit dans la Bible. Eh bien là, c'est vraiment confirmé. Et le témoignage du bois de Joseph, selon Ézéchiel 37, 15, eh bien ce témoignage-là, c'est un autre témoignage de Jésus-Christ qui met de l'ordre dans l'Église. Ces deux morceaux de bois d'Ézéchiel réunis permettent de vivre conformément à l'ordre de l'Église telle qu'il apparaît dans le Nouveau Testament, mais un peu voilé. Ce qui fait que les chrétiens vivent n'importe comment et croient qu'ils sont dans la véritable Église, tous. À commencer même par la pire des Églises, l'Église catholique qui dit en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Vous voyez? Et ils ne disent pas tout ça, mais si, ben ils n'osent pas le dire. Ils ont peur de ressembler aux catholiques. Mais c'est quand même bien ça qu'ils pensent. En dehors de nous, pas de salut. Les deux bois d'Ézéchiel 37 révèlent parfaitement ce qui est saint et qui peut être donné à ceux qui croient sincèrement à Jésus-Christ et à son évangile éternel. Ça ne peut pas être donné aux autres. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas sauvés. Mais voilà, ils seront sauvés comme au travers du feu. L'organisation est maintenant telle qu'elle permet de recevoir les ordonnances salvatrices. Elle permet de bénéficier de la communion fraternelle, pas simplement comme dans les églises, aller poser son derrière dans un salon, dans une cuisine, dans une salle de bistrot qu'on loue au Grill Saint-Martin ou je ne sais pas trop où. Dans un endroit consacré pour ça, et d'être instruit plus parfaitement des principes de l'Évangile, et de pouvoir aider au salut des vivants en prêchant efficacement l'Évangile pour que des gens soient sauvés. Vous avez amené combien de personnes à Jésus? Et puis aussi d'aider au salut des morts. Ah, Michel, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, écoutez, je ne vais pas vous refaire une prédication. Vous allez lire 1 Corinthiens 15, 29, et puis vous allez lire 1 Pierre 4, 6, et puis vous réfléchissez, et puis vous priez, et puis vous demandez à Dieu, c'est quoi cette histoire? Bah, c'est quelque chose qui est dans la Bible, mais qui a été laissé tomber par les églises. Frères et sœurs, nous nous réjouissons de ces choses, parce qu'elles ont été annoncées il y a fort longtemps par les prophètes d'autrefois. Et les prophètes ont dit que ça arriverait juste avant la venue du Messie. Jésus ne reviendra pas avant que ces choses soient vécues sur la terre. Parce que c'est ça qui va remplir la terre, qui va balayer tous les gouvernements corrompus. Le gouvernement de Jésus avec son Église, son épouse. Elles ont été annoncées il y a longtemps. Et nous commençons à les vivre aujourd'hui. Et ce n'est que par pure grâce, mes frères et sœurs. Il faut être humble, ce n'est que par pure grâce. Nous ne méritons rien du tout. Nous ne méritons rien du tout. Dieu nous a choisis, ben merci Seigneur. Et si quelque chose dans votre cœur résonne, eh bien, mettez-vous à genoux, demandez au Seigneur de vous pardonner vos fautes et de vous éclairer et de vous montrer quelle est la vérité et ce que vous avez à faire. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus de bénir mes frères et sœurs qui ont patienté 50 minutes à m'écouter là encore ce soir avec ces choses qui sont tellement différentes de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre dans les églises. Veuillez les bénir mon Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Au revoir. Et à dimanche. Dimanche, ce sera une prédication. Ça ne sera pas un enseignement que Dieu vous garde. Au revoir.